Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Nathalie Cardon.
Il n'est pas bon d'être un évêque aujourd'hui, très surveillé, très critiqué. Plus ça va, plus je fais l'expérience de ma pauvreté, je vois combien nous sommes limités et critiquables, et en même temps, je compte sur la grâce de Dieu, et je sais que la grâce ne fait pas défaut. C'est une parole de Monseigneur Guy de Quérimel, archevêque du diocèse de Toulouse, que l'on retrouve dans un instant. C'est un Vivante Église spécial, trois journées qui débutent, trois journées de Radiodon 2024 sur le thème, et ça sera le fil conducteur durant ces trois journées de l'espérance. Au micro pour intervenant, et ce Vivante Église qui introduit cette première journée, je reçois notre archevêque du diocèse de Toulouse, Monseigneur Guy de Quérimel. Bonjour Monseigneur.
Bonjour à vous.
Alors je vous ai vu sourire, ce sont vos paroles. Plus ça va, plus je fais l'expérience de ma pauvreté. Cette expérience, vous la faites toujours, Monseigneur de Quérimel.
Oui, absolument. Et en même temps, effectivement, je suis témoin de la grâce de Dieu à l'œuvre et dans ma pauvreté, dans ma vie, mais aussi bien sûr dans la vie de bien des personnes que je rencontre, des catéchumènes, des confirmants et donc de beaucoup de chrétiens. Ça, c'est ma grande joie, si vous voulez, c'est de voir la grâce de Dieu à l'œuvre dans le cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui.
Alors, ce Vivante Église sera plein d'espérance, je l'espère. On est dans un beau pays. Ce beau pays, c'est la France, avec son histoire et ses grands saints, de Sainte Thérèse de Lisieux, du Saint Curé d'Ars, de Sainte Bernadette, Saint François de Sales, Saint Claude de la Colombière, Sainte Marguerite Marie, dont nous fêtons les 350 ans des apparitions à Paris, l'émoniale, une France que nous ne reconnaissons pas toujours dans un monde qui désespère, et pourtant il faut parler de cette espérance dans une société qui ne sait plus distinguer elle aussi le bien du mal, qui nomme le bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Nous constatons, Monseigneur Guy de Quérimel, que l'Église va parfois mal, elle semble parfois reculer, elle est dans ce grand désert avec une baisse considérable des vocations sacerdotales. Alors comment retrouver, dans un monde rempli d'angoisse, d'anxiété et de peur, comment retrouver cette espérance, Monseigneur Guy de Quérimel?
Alors, bien sûr que nous les chrétiens, c'est une vertu, la vertu d'espérance que nous avons reçue au baptême. Et donc, il nous faut mettre en œuvre. Alors, ce n'est pas la méthode Coué, c'est cette confiance en Dieu. Et l'espérance, elle s'appuie d'une certaine manière sur la pauvreté de cœur. En ce sens que, justement, quand on sait que nous ne pouvons pas par nous-mêmes produire le bonheur, pour nous, pour la société, alors nous avons des choix à faire qui peuvent nous y conduire, mais nous devons attendre de Dieu la réalisation de ce qui n'est pas à notre portée directement. Nous pouvons y œuvrer à notre petite mesure, mais nous attendons tout de Dieu, en même temps que nous mettons tout en œuvre personnellement pour faire avancer les choses dans le bon sens, mais nous attendons tout de Dieu.
Le 20 juin 1941, Monseigneur Saliège décidait donc de consacrer le diocèse de Toulouse au Sacré-Cœur de Jésus, une décision prise dans un contexte que nous connaissons, de grande souffrance et de péril, symbolisant une demande de protection divine et expression de foi dans des temps troublés. 1941, deuxième guerre mondiale, Monseigneur Saliège, voilà, et vous êtes un de ses successeurs, de Monseigneur Saliège, consacré donc son diocèse de Toulouse au Sacré-Cœur. Vous décidez le 16 octobre 2024, dans un contexte mondial au fond, où il y a confusion, ténèbres, épreuves, guerre, pandémie, de consacrer ce diocèse, cette ville au Sacré-Cœur. Alors racontez-nous un peu le projet que vous avez eu de consacrer ce diocèse au cœur de Jésus.
Alors, l'occasion a été effectivement ce spectacle qui a eu lieu dans les rues de Toulouse, La Porte des Ténèbres. Mais en même temps, pour moi, c'était effectivement le contexte mondial, la guerre qui est revenue en Europe, les menaces et ce qui se passe au Proche-Orient, qui est absolument désastreux. Voilà, beaucoup de gens qui sont aujourd'hui perdus, qui cherchent le sens. Et donc, j'ai eu l'intuition, à l'occasion du 350e anniversaire des apparitions de Jésus à Paray-le-Monial, à Sainte-Marguerite-Marie, j'ai eu l'intuition de consacrer la ville de Toulouse et le diocèse au Sacré-Cœur, en même temps, donc, pour que le Seigneur transforme nos cœurs, pour que le Seigneur ouvre nos cœurs à la puissance de son amour qui a été révélé sur la croix à travers son cœur transpercé, qui est l'ultime signe, je dirais, de l'ultime parole de Jésus mort sur la croix. En me disant, voilà, il nous faut aujourd'hui, il faut que des cœurs humains s'ouvrent à l'amour qui vient du cœur de Jésus pour la transformation du monde. Et je pense qu'il nous faut revenir au cœur. Vous voyez, nous sommes dans une culture de l'image, beaucoup, donc à la surface de nous-mêmes. Or, la clé des problèmes, c'est le cœur, la clé. La clé, notre cœur personnellement, bien sûr le cœur de Jésus, qui est la clé, qui est l'avenir du monde. Et donc, comment nous-mêmes revenir à notre cœur, comment être des hommes et des femmes de cœur, comment laisser nos cœurs s'ouvrir à la détresse du monde et compatir, s'engager au service de la détresse du monde. Et en fait, il y a, et on le voit dans les moments difficiles, il y a un potentiel dans le cœur de chaque personne humaine. Dans les moments d'épreuve, on voit des générosités et des actes héroïques, admirables. Heureusement, les médias nous diffusent de temps en temps, comme cela, des bonnes nouvelles. J'avais envie aussi de nous aider à revenir à cette source profonde qu'il y a au fond de nous-mêmes, et encore plus pour nous chrétiens, quand elle est alimentée par la grâce du Christ, qui coule du cœur de Jésus. Hein, c'est ce fleuve d'eau vive qui assainit tout sur son passage. Je me dis, voilà, c'est le moment pour nous aussi, non pas de nous enfermer dans la critique de ce qui ne va pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais comment nous pouvons répondre par un surcroît d'amour. C'est ça, au fond. C'est comment répondre aux détresses du monde, aux angoisses, au mal qui blesse l'être humain. Comment répondre? Eh bien, par un surcroît d'amour.
Et retourner au cœur de Jésus.
Bien sûr.
Lui s'est laissé blesser.
C'est lui la source de l'amour véritable.
Donc, par cette consécration, c'est un rappel aussi de revenir à cette source. Hein.
Oui.
Et au fond, c'est le mystère de la passion du Christ.
Oui.
Il est mort pour nous sauver.
Et il est vainqueur. Le cœur de Jésus, c'est le cœur victorieux. Déjà sur la croix, puisque au-delà de la mort, il manifeste justement son amour, son cœur ouvert pour tous. Et puis bien sûr à la résurrection, puisque saint Thomas, qui ne doutait de la résurrection, Jésus l'a invité à mettre la main dans son côté. Donc en quelque sorte de toucher son cœur.
Et la Vierge Marie, dans votre homélie, le jour de la consécration de la ville de Toulouse, hein, c'est un extrait que je reprends. Donc vous écrivez « La Vierge Marie, figure de l'Église, avec Saint Jean, apôtre de Jésus-Christ, sont au pied de la croix. Ils recueillent en quelque sorte le sang et l'eau qui coulent du cœur du Christ. Il faut être comme Marie et Saint Jean à ce rendez-vous de la croix, Monseigneur de Kérimel.
Oui, absolument, je le crois beaucoup, non pas dans une attitude doloriste, mais la croix, ce que nous devons contempler, enfin en Jésus crucifié, ce que nous devons contempler, c'est l'amour, justement. Le don de Dieu à travers l'humanité de Jésus, don de Dieu.
Vous employez le terme de contemplation, oui. On ne contemple pas assez.
Non.
Il faut revenir, faire ce retour à contempler.
Donc c'est un regard du cœur, la contemplation. C'est un regard du cœur, c'est au-delà des apparences, percevoir ce qui est. Parce qu'effectivement, on pouvait, dans ceux qui ont regardé, qui ont vu Jésus crucifié, pouvaient voir l'échec radical. Au contraire, la Vierge Marie et Saint Jean ont vu la victoire au moment de ce qui apparaissait comme une défaite.
Alors, de cette consécration de la ville et de son diocèse, est-ce que vous avez eu des retours, Monseigneur, de personnes qui vous ont un peu interrogé sur le pourquoi, le comment de cette consécration au cœur de Jésus ?
Oui, alors
vous avez été compris, vous avez été suivi.
J'ai eu beaucoup de critiqué. J'ai été critiqué, bien sûr, mais pas tant que ça. Alors, je ne suis pas allé voir sur les réseaux sociaux. Hein. Là, je pense que ça a dû chauffer un peu, mais je n'ai pas été voir. Et par contre, j'ai reçu quelques critiques, mais beaucoup, beaucoup d'encouragement. Et au niveau international, même un petit message de Malaisie, s'il vous plaît. Assez étonnant. Et donc, ça, c'était très, très encourageant pour moi. Alors, il y a des personnes qui n'ont pas compris. Alors, d'une certaine manière, le pape François m'a aidé beaucoup, puisque 8 jours plus tard, il sortait son encyclique sur le Sacré-Cœur, qui est un texte magnifique que j'invite les gens à lire.
On aura l'occasion de faire des émissions.
À méditer, voilà, certainement. Et un très beau texte, vraiment, qui redit justement tout l'amour de Dieu, signifié donc déjà dans l'Ancien Testament, mais particulièrement dans le Christ et par le Sacré-Cœur de Jésus, hein, qui est le signe le plus fort d'une certaine manière. Et donc, oui, en tout cas, j'étais bien suivi dans le diocèse par les prêtres, par les laïcs. Donc beaucoup, au moment de la consécration du Sacré-Cœur, beaucoup de paroisses célébraient au même moment. Nous étions 700 dans et à l'extérieur de l'église du Sacré-Cœur à Toulouse. Mais au Christ-Roi, où il y a 500 places, on m'a dit que l'église était pleine. Vous voyez, j'ai reçu et je savais jusqu'à Saint-Gaudens, donc que des paroisses s'associaient à cette prière. Donc nous avons été très nombreux à vivre ce temps fort. On avait distribué l'acte de consécration à toutes les paroisses. Et pour moi, et alors au Sacré-Cœur, ça a été un moment extrêmement impressionnant. Très fort, extrêmement fort, de densité de joie et de densité de la prière, c'était assez impressionnant.
Vous avez été vous-même surpris par cette densité de prière
et
de joie.
Ah oui, ça m'a marqué. Oui. Les gens étaient là, répondaient, chantaient. C'était vraiment un cœur unanime. Là, l'ensemble des gens qui étaient là chantaient de tout cœur. On a dit ensemble la prière de consécration. C'était très fort. Vraiment.
Alors, en consacrant ce diocèse de Toulouse, cette ville aussi de Toulouse, pourquoi ne pas consacrer la France au cœur de Jésus, Monseigneur de Quérimel?
C'est une très bonne question qui trotte dans la tête de quelques évêques. Donc, on verra ce qui va se passer. Mais ce serait une très bonne idée que j'encouragerais, en tout cas. Oui.
Je voudrais revenir quelques instants sur cette terre du Liban, puisque vous êtes parti en août dernier, une quinzaine de jours, en terre libanaise. Vous avez été accueilli par une paroisse maronite. Un séjour profondément marqué par cette joie et ces personnes rencontrées là-bas. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce beau voyage?
Ça a été pour moi un très beau voyage. C'était la première fois que j'allais au Liban. Je suis allé avec le vicaire général de Toulouse, et qui, lui, c'était son 6e voyage au Liban. Donc un voyage très riche, oui, qui a commencé assez rapidement, 2 jours après notre arrivée, par une béatification d'un patriarche du XVIIe siècle, donc qui était au patriarcat, là, pas très loin de Beyrouth. Et puis, voilà, nous avons fait un tour du Liban jusque nous sommes descendus à Sidon, Saïda. Donc, mais nous ne sommes pas allés plus au sud. J'aurais bien aimé aller jusqu'à Tyr, mais ce n'était pas prudent. Mais nous avons été vraiment très, très bien accueillis. J'ai été très touché par ce pays qui a la foi, qui respire la foi, même chez les musulmans. Mais dans les quartiers chrétiens, dans les villages chrétiens, on voit même des statues de la Vierge Marie sur les ronds-points des villes. Et des gens qui n'ont pas peur d'afficher leur foi et qui la vivent profondément. Donc on a eu la belle fête de la Transfiguration dans une petite chapelle un peu en montagne, là, magnifique, dans un bois de cèdre. Et puis nous sommes allés aussi donc plus haut dans les montagnes, jusque à la forêt de cèdre qui est à 2000 mètres d'altitude, pas très loin de la résidence d'été du patriarche aussi. Alors j'ai admiré la beauté de ce pays, mais toutes ces rencontres, on a rencontré aussi, voilà, il y a des monastères où il y a encore quelques ermites autour du monastère, et alors j'ai pu dans un monastère parler avec l'un d'entre eux qui avait été rapatrié au monastère parce qu'il est trop âgé pour être tout seul, et qui donc m'a donné une parole de sage, etc., qui m'a fortement encouragé d'ailleurs pour vivre les temps qui sont les nôtres ici en France. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. Nous avons rencontré effectivement des familles, dont certaines des étudiants qui sont à Toulouse dans l'année, qui étaient repartis là, en famille au Liban. Et un accueil extraordinaire, vraiment. Nous avons l'idée, donc, avec un évêque maronite, l'évêque de Jbeil. Donc, Jbeil, c'est l'ancienne Byblos, de créer un jumelage entre le diocèse de Toulouse et le diocèse de Jbeil. Et il se trouve que dans l'antique Byblos, il y a un château qui a été édifié par le comte de Toulouse, Raymond IV de Saint-Gilles. Et donc, voilà, il y a des liens très, très historiques. Et donc, pour nous connaître mieux, donc les Maronites, c'est une église orientale avec un rite qui n'est pas le rite latin, avec donc aussi des prêtres qui ont le choix de se marier ou rester célibataire, enfin, avant l'ordination diaconale, ils peuvent choisir s'ils se marient ou s'ils restent célibataires. Et donc, c'est intéressant, je trouve, ces échanges. Et encore plus, alors la situation actuelle du Liban me dit qu'on fait bien les soutenir moralement. Déjà, notre présence, la première quinzaine d'août, a été un soutien moral pour eux très fort. Et ils me l'ont dit plusieurs fois. Le patriarche m'a invité à revenir avec d'autres évêques aussi.
Donc c'est une rencontre fraternelle, une vraie rencontre.
Oui. Il y a eu vraiment de vraies rencontres. On a vu beaucoup de monde. Et des dialogues extrêmement riches. Oui,
Là aussi, vous êtes laissé parfois surprendre par ces belles rencontres.
Oui, ouais. Tout à fait. Ouais. Vous savez, on a rencontré en particulier une religieuse qui est directrice d'une école et qui a très peu de moyens. Et la question se posait de fermer cette école. Mais on a senti une femme, une battante, qui vraiment se bat pour cette école.
Donc, qui lutte pour son école.
Ah oui. Ouais. Et puis, elle n'a pas envie de la fermer, ça, c'est sûr. Et c'est magnifique de voir des gens d'un courage, d'une force intérieure. Voilà, il ne faut pas jamais se décourager, jamais...
Alors c'est un mot que vous pourriez peut-être donner à ceux et celles qui vous écoutent. Comment garder cette espérance? Quel mot et quel encouragement vous, archevêque, pourriez donc donner à chacun et chacune?
Pour moi, si vous voulez, le mal fait beaucoup de bruit et s'étale. Mais le bien est bien plus puissant et le bien est plus discret. Et on le voit dans mon homélie pour la consécration au Sacré-Cœur, je parlais de ces cœurs qui s'ouvrent justement aussi alors que, pour chercher les corps dans les décombres ou les survivants dans les décombres des ruines dues à la guerre, etc. Et tout cela, c'est signe de la force de la vie et la vie est plus forte que la mort. La vie est plus forte que la mort. Et donc, il nous faut encourager, je ne peux qu'encourager les gens à croire en la force de la vie et à aller dans le sens de la vie, à diffuser la vie, à transmettre la vie.
Comment diffuser? Au fond, c'est un mouvement de vie. Et au fond, ce mouvement de vie ne peut être transmis par ce mouvement de vie intérieure. Donc, retrouver une vie intérieure.
Retrouver la source profonde au fond de notre cœur. Retrouver Dieu ou trouver Dieu, pour ceux qui ne l'ont pas trouvé, qui est au fond de notre cœur et qui dépose une source de vie et une puissance de vie. Et comme le dit saint Paul, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien, ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, etc. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et donc, appuyons-nous sur cet amour de Dieu pour nous-mêmes aller participer à la victoire de la vie, à la victoire du bien. Alors avec tous les échecs possibles, mais ce que nous semons dans le bien, pour le bien, porte du fruit et portera du fruit, même si nous ne le voyons pas immédiatement.
Monseigneur de Kerimel, l'invité de ce Vivante Église spécial, puisque je rappelle que ce sont les trois journées spéciales Radio Don sur l'antenne de Radio Présence. Merci aussi, Monseigneur, d'avoir accepté ce passage sur l'antenne en ces temps où nous avons besoin d'espérance, plus que jamais, de confiance, et puis d'un rappel aussi à choisir, rechoisir aussi ce mouvement de vie et retrouver peut-être cette vie intérieure et ce cœur de Jésus.
Oui.
Je vous retrouve, Monseigneur de Kerimel, dans un instant pour la suite de cette émission spéciale et au fond spéciale espérance. À tout de suite.
Je veux dire à ceux et à celles qui ont des larmes plein les yeux, des gouttes d'âme qui étincellent pour crier qu'ils sont pas heureux. Je veux dire, si le bonheur ne nous veut pas et si les rires ne viennent pas, moi je crois qu'au fond de soi l'espérance est là.
Présence. Vivante Église, Nathalie Cardon.
Suite de ce Vivante Église spécial, sur ces trois jours de Radio Don, le thème et le fil conducteur est l'espérance. Au micro pour intervenant, c'est Monseigneur l'archevêque Guy de Kerimel que je reçois. Monseigneur de Kerimel, chaque croyant, chaque auditeur, chacune aussi de vos brebis du diocèse de Toulouse, de sa ville et de sa région, ont besoin aussi d'entendre la voix de leur pasteur. Un pasteur qui montre le chemin, qui guide ses brebis, qui rassure ses brebis et qui encourage surtout. On est dans des temps et des traversées douloureuses de l'Église, à l'intérieur même de l'Église. Le sacerdoce lui-même est touché directement par ses blessures et ses abus et ses scandales que nous connaissons. Mais ce n'est pas l'objet de cette émission spéciale Espérance aujourd'hui. Parlons, et c'est un souci que vous avez, de la formation et puis de l'accompagnement des prêtres. Alors, comment on discerne une vocation? Comment on accompagne une vocation? Et comment on accompagne aussi ce jeune prêtre qui débute son ministère sacerdotal? Monseigneur, c'est une belle mission, mais une lourde charge. Parlez-nous de ces prêtres et de ces séminaristes.
Alors, pour ce qui est du discernement, bien sûr, c'est extrêmement important. Il faut que nous apprenions à discerner si ce jeune a un réel appel. Et je pense que pour moi, un des points importants, un des signes importants, qui n'est certainement pas le seul, mais quand j'étais responsable à Aix-en-Provence de l'année propédeutique, donc de l'année de fondation spirituelle, juste avant l'entrée au séminaire, je me disais, si à la fin de l'année, ces jeunes sont vrais, je n'aurais pas perdu mon année. Et alors c'est pour moi un des critères de discernement. Est-ce que cet homme est profondément vrai? Et vrai, la vérité, elle est liée à l'intériorité dont nous parlions et au cœur. Quand on parle avec son cœur, quand on est un homme de cœur, eh bien, on ne triche pas. Vous voyez, on est vrai. Et donc, pour ces jeunes, savoir reconnaître s'ils sont vrais avec l'autorité, etc., dans le respect, bien sûr, de leur vie intérieure personnelle, de leur intimité. Mais il y a une manière de se comporter, on sent que des personnes sont vraies. Elles ne jouent pas à cache-cache avec elles-mêmes et avec les autres. Mais, et donc ça, c'est un point important. Après, voilà, discerner qu'il y a vraiment la main de Dieu sur cette personne, que... Il a, comment dire, une connaissance des enjeux, des difficultés. La question aussi, donc, il sera appelé un jour si on l'encourage à poursuivre les études en vue du sacerdoce, eh bien, à s'engager au célibat consacré. Ça veut dire quel équilibre, quelle maturité affective, quelle maturité relationnelle le ministère du prêtre, c'est une affaire de relation. Ce n'est qu'une affaire de relation, pratiquement, et de mise en relation, bien sûr, avec Dieu. Et donc, il faut qu'il ait une capacité. Et si c'est un ours ou si c'est quelqu'un qui ne sait pas parler aux autres, etc., ce sera difficile pour lui d'être prêtre, vous voyez. Donc, il y a des questions en même temps très pratiques, très concrètes. Et en même temps, donc, après, le discernement, alors là, comment dire, ce n'est pas une vérité scientifique. On perçoit qu'il y a quand même tous les feux verts, ou en tout cas, il n'y a pas d'obstacle. Pour des personnes, on voit tout de suite un feu rouge net. Pour d'autres, il n'y a pas de feu rouge, mais ça ne suffit pas qu'il n'y ait pas de feu rouge. Il faut qu'il y ait vraiment des feux verts. Voilà. Voilà, on peut se tromper, mais il vaut mieux essayer de ne pas se tromper, parce que ça a des conséquences dramatiques.
Oui. Alors, c'est 6 ans de préparation, tout de même, Monseigneur.
C'est plus la propédeutique, oui. ça fait au moins 7 ans. Oui,
et parfois, on se trompe.
Parfois, il arrive qu'on se trompe, ou parce que ce que j'ai vu aussi, c'est que, bon, il n'y a pas de feu rouge, mais on n'est pas convaincu, mais on laisse passer une année de plus, et puis une année de plus, et puis une année de plus. Et après, on n'ose plus dire non, alors qu'on n'a pas de signe positif, si vous voulez.
J'entends, on n'ose plus de dire non, on s'autorise plus à avoir cette liberté d'interrompre le cheminement de tel séminariste qui, lui, désire profondément aller jusqu'au bout, jusqu'au jour de l'ordination.
Après, il peut y avoir justement des appels authentiques et on ne s'est pas forcément trompé, mais après, le combat spirituel, après l'ordination, les pièges, ce que j'appelle les peaux de banane, parfois, qui font qu'un jeune prêtre va déraper, d'où l'importance de l'accompagnement aussi dans les premières années du sacerdoce.
C'est un souci pour vous, cet accompagnement de ces jeunes prêtres ordonnés?
Oui, absolument. Ouais. Et j'ai repris à Toulouse ce que j'avais fait à Grenoble, c'est-à-dire de passer de temps en temps une journée avec eux sur un thème qu'ils peuvent choisir, mais où moi je peux aussi apporter certains éléments, etc. Mais pour nouer une relation de confiance aussi, et donc je fais ça 4 fois par an avec le vicaire général qui m'accompagne, et apparemment c'est apprécié, les jeunes prêtres apprécient d'avoir une journée avec leur évêque, et donc ça permet, si vous voulez, d'échanger, de mieux se connaître, et d'être justement, d'être simple et vrai entre nous. Et c'est très important, ça. Il faut que les prêtres en général, les jeunes prêtres encore plus, sentent le soutien bienveillant de leur évêque.
Est-ce que quand on parle donc de l'évêque, on parle de paternité de l'évêque avec ses âmes sacerdotales qui lui sont confiées dans son diocèse, Monseigneur?
Oui, alors
c'est
il doit...
C'est la paternité.
Oui, l'évêque doit être, comme dit le Concile Vatican II, le père et le frère de ses prêtres. Oui.
Et les frères prêtres ont besoin de ce père-là?
C'est oui, ça. Je pense qu'ils ont besoin, tout à fait. On a tous besoin de se sentir encouragés dans notre mission.
Donc il faut encourager et soutenir nos prêtres.
Absolument.
Oui, si
absolument.
Vous deviez, pour garder un peu le fil conducteur de l'espérance, restons dans l'espérance aussi pour tous les prêtres qui sont donnés aussi à l'Église, ceux et celles qui vous écoutent, Monseigneur de Quérimel, qui sont peut-être un peu tendus quand on parle du sacerdoce, des prêtres et de l'accompagnement avec les dérives que nous connaissons sont aujourd'hui. Un mot pour chacun et chacune, Monseigneur.
Bien, entourez vos prêtres et puis, voilà, le prêtre ne peut pas rester isolé. Il fait partie de la communauté dont il est le pasteur. Et donc, c'est ensemble que nous devons avancer. Et si la communauté est une vraie communauté, eh bien, le prêtre trouvera sa place et la communauté sera l'entourée. Moi, ça m'est arrivé de dire à des paroissiens aussi, mais si vous voyez que votre prêtre dérape, ayez assez de charité pour le lui dire, pour essayer de parler avec lui, et dans le respect profondément, dans une attitude bienveillante et de respect, et au besoin d'alerter l'évêque. Mais vous voyez, il faut retrouver le sens de la communauté chrétienne. Le prêtre n'est pas simplement un prestataire de service qui viendrait fournir les personnes dans les grâces du Christ et puis oui. Chacun pour son suite. Non, c'est une communauté que nous avons à construire.
Alors, un prêtre trop charismatique, hein, peut-être un peu trop séducteur. Et là, je pense aussi à l'époque actuelle que nous vivons, Monseigneur de Kerimel. C'est l'espace aussi des réseaux sociaux qui prennent aussi une grande place dans la vie de chacun et chacune. Et particulièrement aussi parfois pour nos frères prêtres. Alors, qu'en est-il, vous, archevêque?
Eh bien, que des prêtres soient sur les réseaux sociaux, c'est en soi une très bonne chose. Mais dans ces cas-là, il faut vraiment suivre de près et peut-être que ça peut être pour un temps limité, parce que le gros danger des réseaux sociaux, c'est qu'on finit par dire ce qui plaît à nos followers, etc. Et donc, on se laisse piéger inconsciemment par les followers. Et du coup, on ne transmet plus la bonne nouvelle en tant que telle. On transmet ce qui plaît, de la bonne nouvelle, ce qui plaît à notre public. Et là, c'est très dangereux.
Restons dans la bonne nouvelle de l'Évangile.
Oui, voilà. Et l'Évangile nous dérange tout le temps. Et il faut accepter comme pasteur d'avoir des paroles qui vont heurter, qui vont déranger, et c'est normal, comme Jésus avec le jeune homme riche. Bon, mais le jeune homme riche part tout triste, mais moi je me dis toujours, la parole de Jésus a dû travailler dans son cœur, et peut-être qu'un jour il a entendu, il est revenu à Jésus.
Oui.
Et donc nous-mêmes, prêtres ou évêques, nous devons garder notre liberté intérieure, notre fidélité au Christ, et tout en étant proches et en aimant ceux vers qui nous sommes envoyés, bien sûr, hein, en faisant corps avec eux, mais garder notre liberté intérieure. Et c'est une question, donc, encore une fois, d'intériorité et de cœur. Hein, comment notre cœur est réellement donné à Dieu? Comment c'est d'abord, donc quand Jésus dans l'Évangile dit, voilà, si vous voulez marcher, si vous ne me préférez pas votre père, votre mère, votre femme, vos enfants, hein, vous ne pouvez pas être mon disciple. C'est-à-dire que notre cœur doit être vraiment habité par le Christ, et moyennant quoi, donc c'est parce que nous sommes habités par le Christ que nous pouvons aimer de manière juste ceux vers lesquels nous sommes envoyés. Et aimer de manière juste, c'est parfois oser dire des paroles évangéliques qui dérangent, oser dire des choses qui vont bousculer, mais pour le bien. C'est pas, vous voyez, nous ne sommes pas là pour condamner. Le prêtre, le Christ n'a jamais condamné, et nous, les prêtres, les évêques, nous ne sommes pas là pour condamner. On peut condamner des événements, on peut condamner des réalités, on ne peut jamais condamner des personnes. Jamais.
C'est un point important que vous soulevez.
Absolument.
Vous parlez de fidélité au Christ. Qu'est-ce qui fait qu'un prêtre peut rester fidèle jusqu'au dernier jour dans sa sacerdoce? Et qu'est-ce qui empêche un prêtre aujourd'hui de rester fidèle et au fond de rester obéissant jusqu'au bout, Monseigneur?
Oui, c'est ça. Oui. La fidélité, elle est liée d'abord à la fidélité dans les relations. Donc, relation au Christ, d'abord et avant tout. Si le prêtre ne prie plus, sous prétexte qu'il n'a plus le temps de prier, je suis désolé, la prière, elle fait partie de la mission du prêtre, elle fait partie de son apostolat. Et donc, se laisser habiter par le Christ, par sa parole, hein, se laisser déranger soi-même par sa parole, le prêtre n'est pas au-dessus de la parole, il doit se laisser traverser par cette parole de Dieu. Et puis, bien sûr, la relation aussi à ses confrères prêtres et à l'évêque. Si le prêtre s'isole, il est en danger. Et c'est toute une affaire de relation, toujours.
Non.
Moi, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai des frères et des sœurs,
une
communauté qui m'a porté, qui m'a soutenu, qui m'a permis d'entendre mon appel. Et puis de devenir ce que je suis. Et ce n'est pas fini.
et de rester fidèle jusqu'au bout de cet appel. Alors, voilà. Des joies, vous en avez. Gardant ce chemin aussi d'espérance dans ces trois journées du Radio Don, chers auditeurs, n'hésitez pas aussi à appeler la radio pour donner aussi vos témoignages. N'hésitez pas aussi à écrire aussi un courrier, une lettre directement adressée à Monseigneur de Kerimel. Gardant ce chemin d'espérance, il y a aussi dans le diocèse de Toulouse, cette belle mission de la pastorale des étudiants. Cette jeunesse, elle est importante aussi, c'est l'avenir de l'Église, c'est l'avenir du monde. Quelques mots, Monseigneur.
Je suis impressionné par la paroisse étudiante de Toulouse qui rassemble beaucoup, beaucoup de monde. On a déjà été obligé de dédoubler donc la basilique de la dorade ne suffit plus maintenant pour accueillir le dimanche soir les étudiants qui viennent à la messe. Et puis, entre les demandeurs de baptême ou de confirmation, ils ont dépassé les 150. Donc, c'est vraiment très réjouissant et très stimulant. Et alors, les jeunes, évidemment, ils sont pleins de dynamisme, ils sont pleins de ressources, ils en veulent. Et ça, c'est très, très beau et très encourageant. Célébrer la messe un dimanche soir à la dorade, c'est vraiment une consolation si jamais la semaine a été dure, et c'est plein d'espérance. Alors là, vraiment, on a des beaux signes d'espérance.
Alors,
là,
je note espérance, mais consolation. Un archevêque a besoin d'être consolé.
Mais oui, absolument, ça arrive, comme tout le monde. Oui, absolument. Mais non, ça, c'est vraiment très, très encourageant. Et certains ont des témoignages où, quand je lis, vous savez, les lettres des confirmants, des catéchumènes, je suis édifié. Édifié, vraiment, y compris, alors, des plus jeunes, quelquefois même des adolescents, il peut y avoir, je me dis, telle ou telle lettre, celui-là ou celle-là, elle a tout compris. Ouais. Oui, non, c'est très beau et c'est une joie pour moi, vous ne pouvez pas imaginer, une joie intérieure et une action de grâce, vraiment.
Belle action de grâce, plein d'espérance aussi pour le monde de demain, le monde d'aujourd'hui.
Ce sont des
futurs ouvriers à la vigne du Seigneur.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et il y en a qui feront des choses admirables là. Donc, non, c'est plein d'espérance. J'ai aucune inquiétude pour l'avenir de l'Église, vous savez.
Ni l'avenir du monde.
Et l'avenir du monde, non, mais l'Église a un rôle majeur. Le Christ est l'avenir du monde. Et donc, l'Église a un rôle majeur, humblement, vraiment dans une attitude de service pour aider les gens à oser l'avenir. Oser la rencontre, bien sûr.
Deux sujets qui inquiètent certains d'entre nous, cette fin de vie. Le texte sera examiné à l'Assemblée nationale à partir du 27 janvier 2025 et jusqu'au 3 février. Monseigneur, deux mots sur cette fin de vie.
Bien, pour moi, ça fait partie de ces signes de désespérance dans la société. Alors, nous ne devons pas baisser les bras, nous devons être missionnaires de la vie, hein, et être témoins de la beauté de la vie. Et vous le savez, les personnes demandent la mort, quand elles sont vraiment accompagnées, toutes les personnes qui travaillent dans les soins palliatifs vous le diront, toutes les personnes qui sont vraiment accompagnées, eh bien, elles ne demandent plus la mort. Elles ne demandent plus la mort. Parce que l'être humain est fait pour la vie. Alors, la mort est un passage et nous devons tous la vivre. Mais comme disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, non, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Et donc, c'est cela pour nous, si vous voulez, nous devons être vraiment promoteurs de la vie, encourager les gens à choisir la vie. Vous savez, dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel en particulier, Dieu dit, voilà, choisis, hein, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Dieu nous propose la vie.
Soyons attentifs aux signes des temps aussi, sachons aussi écouter. Ouvrir cette porte du cœur.
Voilà, et c'est pour ça que, vous voyez, les chrétiens, justement, nous devons être des hommes et des femmes de cœur qui essayent humblement, parce qu'on ne peut pas forcer la porte d'un cœur, mais qui, au nom du Christ, vont frapper à la porte des cœurs de ceux qui nous entourent. Essayer de vivre de vraies rencontres, pas simplement des bonjours superficiels, mais de vraies rencontres.
Vous insistez, oui.
Et voilà, et quand on le sent à un moment, quand nos cœurs s'ouvrent l'un à l'autre, vous savez, dans une rencontre, on le sent à un moment. Et c'est ce que nous avons à vivre, encore une fois, dans le respect, sans jamais forcer la porte d'un cœur. Jamais, jamais, jamais. Mais frapper humblement et nous-mêmes ouvrir notre cœur à cette personne.
Donc, parfois, de la patience.
La patience, oui. Ouais. Oui. L'amour et patience, en ce moment, je médite beaucoup sur l'hymne à l'amour chez Saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13. Hein. L'amour est patient, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, enfin ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, voilà, etc.
Et puis il y a cette loi de l'IVG dans la Constitution qui a été adoptée le 4 mars 2024. Un mot, Monseigneur de Kerumel.
Vous savez, je pense à toutes ces femmes qui ont choisi d'avorter. Elles ont choisi, beaucoup quand même, c'est sous pression. Et donc, qui vivent, pour un bon nombre d'entre elles, des souffrances intérieures terribles qu'elles ne peuvent pas toujours partager. Et donc, bien sûr que ces femmes-là ne doivent pas être jugées, mais doivent être, au contraire, aimées encore plus. Mais après, c'est un non-sens d'écrire la mort dans une constitution, c'est un non-sens. Ça n'apporte rien à ces femmes, rien. Mais c'est une. Voilà, ça se veut une force symbolique pour mettre en exergue une forme de liberté qui n'est pas la vraie liberté. Encore une fois, la plupart de ces femmes ne sont pas libres.
Est-ce que cette signature de l'avortement de l'IVG dans la Constitution fait partie peut-être de ces signes, non pas, permettez-moi Monseigneur de Kerumel, nous restons dans l'espérance, non pas la fin du monde, mais signe de la fin des temps?
C'est la fin d'un temps, au
d'un
moins.
Temps.
Et encore une fois, on ne peut qu'encourager les gens à choisir la vie. La vie, c'est l'avenir. Voilà. Mais surtout, ne jugeons pas les personnes, ne jugeons pas les personnes.
Ne les condamnons pas.
Ne les condamnons pas.
Et l'Église ne condamne pas ces personnes.
Non, tout à fait. Et donc, au contraire, il nous faut manifester, encore une fois, tout l'amour de Dieu et comment Dieu veut justement tourner et transformer cette logique de mort en logique de vie et de bien pour tous. Voilà.
Chers auditeurs, donc vous pouvez aussi adresser un courrier à Monseigneur Guy de Kerumel si vous avez besoin d'écrire à l'archevêque du diocèse de Toulouse. Monseigneur, un mot de fin pour tous ceux et toutes celles qui vont suivre pendant 3 jours, qui vont certainement aussi accompagner, soutenir financièrement Radio Présence pour que la mission sur les ondes se poursuive.
J'encourage les auditeurs effectivement à faire vivre cette radio qui est une radio de proximité, qui est une radio aussi qui est justement porteuse d'espérance pour les auditeurs et qui permet d'avoir un regard chrétien aussi sur l'actualité, qui permet aussi de les rejoindre dans leur prière aussi, dans leur désir des missions spirituelles. Et donc, voilà, c'est une radio qui se veut bienveillante, fraternelle et donc une radio d'espérance.
Merci pour ces mots de fin. Monseigneur Guy de Kerumel, on vous souhaite de bien poursuivre dans votre fidélité, votre obéissance, fidélité au Christ, votre mission d'archevêque qui vous est confiée, dans ce mouvement aussi de fraternité, dans ces moments aussi de rencontres, et vous avez beaucoup insisté tout au long de l'émission, des rencontres vraies.
Oui.
Voilà, on va droit au cœur et laisser cette porte du cœur s'ouvrir pour que cette opération, en fait, miraculeuse, parce qu'on parle de miracle, quand la rencontre est vraie, le miracle s'opère.
Voilà, merci à vous en tout cas.
Merci.
Merci bien.
Au revoir, Monseigneur.
Au revoir.